OK, on revient sur la réforme de la loi 101 présentée par la CAQ hier. Puis là, là, vous l'avez vu, là, ça ratisse large, pas à peu près. Ça touche les municipalités, ça touche le monde de l'éducation, ça touche en fait plusieurs domaines, mais ça touche surtout le monde du travail. Alors avec nous, vous le connaissez bien, spécialiste en droit du travail, l'avocat Philippe Coderre est à l'émission. Salut Philippe!
Salut LP.
Bon, d'abord, les gros changements pour les employeurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus cet après-midi?
Ben là, c'est sûr que moi, j'ai survolé la loi au moment où on se parle. Fait qu'il y a peut-être des petites nuances ou des choses qui m'ont échappé, là. Mais rapidement, ce que j'ai noté, c'est qu'en termes de communication dans le milieu de travail en français, la loi est beaucoup plus précise qu'elle était, là. Donc, tout ce qui est contrat de travail, documents d'entreprise, normalement, maintenant, il va falloir que ce soit en français, là. Donc, c'est beaucoup plus clair et succinct qu'avant. Avant, on disait simplement toute communication doit être dans la langue, là, officielle. Là, on précise c'est quoi ces communications-là. Il y a des changements au niveau des recours, ça c'est majeur. Là. On pourra y revenir un peu plus tard, là, mais il y a des recours d'antidiscrimination, des recours en pratique interdite. Ça, c'est un gros changement. Puis je vous expliquerai les détails un peu plus tard. Là. Puis il y a les comités de francisation aussi qui ont été maintenant, là, ça existait déjà ça, mais maintenant ça va s'appliquer aux entreprises de 25 employés et plus. Alors ça, là, on peut penser, quand on parle de 25 employés et plus, on ne parle pas d'une multinationale nécessairement, hein, on s'entend. Alors il y a des petites entreprises, des PME qui vont peut-être être impactées par ça. C'est les trois gros changements majeurs que j'ai notés en droit du travail là, pour l'instant.
OK, on va y aller morceau par morceau. Les communications, je pensais que c'était déjà pas mal comme ça, là, à l'interne au Québec, là, dans une entreprise, là, ben, ça doit se passer en français.
Oui, ben là, c'est comme je dis, on a précisé, là. Alors maintenant, avant, on pouvait interpréter toutes sortes de choses par rapport à ça. Moi, j'ai des clients dont toutes les communications, souvent, ont été en anglais dans d'autres villes, là. Alors, ça peut arriver encore des entreprises où tout est en anglais parce que le propriétaire est anglophone. Maintenant, ce qu'on dit, c'est toute offre d'emploi, là, de mutation, promotion, ça doit être en français. Tout contrat de travail, ça doit être en français. Les communications écrites, ça, c'était déjà le cas. Là. Ça, c'est ça qui était déjà le cas. Les communications écrites, ça doit être en français. Et si un employé, par exemple, décide que lui, ça lui va, là, si les parties conviennent que ça se passe en anglais, ben, il doit y avoir des copies françaises disponibles par rapport à certains documents. Je donne l'exemple. Une entreprise là, qui pourrait être établie, je sais pas moi, quelque part dans la région, dans le Pontiac, un milieu plus anglophone, pourrait avoir pris l'habitude de faire ses manuels d'employés en anglais parce que tout le monde parle anglais, puis c'est connu et c'est accepté. Sauf que maintenant, ça va prendre une copie française de ce document-là aussi, le guide d'employés, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Évidemment, il faut que le monde se plaigne hein, pour que ça soit efficace. Là, oui. Sinon, ben ça ne changera rien.
Exact. Mais s'il y avait, exemple, je ne sais pas, un nouvel employé en français, puis ça a toujours fonctionner comme ça, mais lui se plaint, ben là, il y aurait obligation pour l'entreprise de se conformer et d'avoir les documents en français disponibles pour tout le monde.
Exactement. Puis ça, on l'a vu souvent, là, des francophones qui signent des contrats de travail en anglais, même s'ils ne comprennent pas trop le contrat de travail. Ça se voit souvent. Là, ça, c'est quelque chose en Outaouais, à Montréal, qu'on voit souvent parce que les documents internes de l'entreprise sont en anglais. Mais maintenant, un employé peut vraiment, là, c'est clair, net et précis, il peut dire « je veux mon contrat de travail en français » et là, l'employeur devra faire traduire les contrats.
Sinon, il a maintenant des recours possibles ou en tout cas, on simplifie la possibilité de recours. Si je comprends bien, Philippe, comment ça va fonctionner?
Oui, bien là, il y a deux recours qui ont été instaurés. Un qui existait un peu déjà. Donc, avant, il y a toujours un recours contre les représailles. Donc, si on donnait des représailles à quelqu'un, on pouvait utiliser un recours, on pouvait déposer une plainte au tribunal administratif du travail. Sauf que là, c'est l'employé qui devait prendre ça sur ses épaules, aller faire la démonstration au TAT. Il n'y avait pas de critères à savoir c'est quoi une pratique interdite ou pas. Là, maintenant, c'est clair, net et précis.
Le TAT, en passant, pour monsieur, madame, tout le monde, là, c'est le tribunal administratif du travail.
Oui, tout à fait, exactement.
Là, votre maudit jargon, Philippe.
Exactement. Des fois, on essaie de sauver des mots, puis finalement, on vient de rallonger l'entrevue de 30 secondes. Alors, tout ça pour dire que maintenant, il y a un recours en discrimination qui est clair, là, qui est dans la loi. Donc, je peux déposer une plainte à la Commission des normes du travail si je juge que je fais l'objet de discrimination en raison de ma langue, en raison que du fait que je veux parler français. Et le plus gros changement, c'est que si j'exerce un droit prévu par la charte, et que l'employeur me donne une mesure de représailles de façon concomitante, donc rapprochée dans le temps, après, par exemple, avoir demandé le manuel des employés en français. ben là, je dispose d'un recours à la Commission des normes du travail et il y a une présomption qui va s'appliquer à l'effet que l'employeur a fait la mesure de représailles ou ma suspension, peu importe, parce que j'ai exercé ce droit-là.
Donc, on renverse le fardeau?
On renverse le fardeau de preuve, comme ça s'applique dans des recours en vertu de la loi, c'est énorme. Hein. Si jamais vous demandez des congés puis que l'employeur vous congédie, il y a une présomption qui s'applique qui vous a congédié à cause que vous avez demandé vos vacances. Là, on vient d'allonger ce concept-là aux notions qui impliquent la Charte de la langue française. Fait que ça, c'est un changement majeur. Pourquoi? Parce que la deuxième raison, c'est que avant, je vous disais que l'employé pouvait aller directement au tribunal administratif du travail. Maintenant, il va déposer sa plainte à la CNESST et c'est elle qui va entreprendre le recours gratuitement. Donc, elle va fournir des avocats gratuits à l'employé et l'employeur devra se défendre contre la CNESST.
Ça change la game, là.
Ça change la game. Et le deuxième volet où la game est très, très, très changée, c'est par rapport à la nécessité de travailler en français. Donc là, ce qu'on vient de dire, c'est que avant, c'était juste si l'employeur pouvait se libérer de tout ça avant en disant l'anglais est nécessaire chez nous, donc c'est pour ça que le poste demandé est bilingue. Là, maintenant, on donne des critères et ce qu'on dit, c'est qu'on doit avoir pris des moyens raisonnables du côté de l'employeur pour s'assurer qu'une autre langue n'était pas nécessaire. Alors, parmi les moyens là, que l'employeur doit faire, il doit évaluer les besoins réels associés aux tâches. Il doit s'assurer que, par exemple, s'il y a assez d'employés bilingues, il n'est pas obligé d'exiger que le 10e employé soit bilingue aussi. Donc, ça fait partie des choses que l'employeur doit évaluer. On doit restreindre au maximum le nombre de postes bilingues, le nombre de postes qui exigent une autre langue.
Alors, il va vraiment devoir justifier là, chaque poste bilingue. C'est un peu ça, là.
Exact. Donc ça, c'est quand même un gros changement. Ça vient changer la game parce que s'il ne le fait pas, un employé pourrait déposer une plainte aux normes. Maintenant, l'employé va avoir des avocats gratuits. Et là, c'est la CNSST qui va plaider quelque chose. Et l'employeur, pour renverser cette présomption-là à l'effet qu'il a fait une pratique interdite, va devoir démontrer qu'il a étudié ses affaires avant comme il faut. Alors, ça pourrait être lourd. Encore une fois, comme l'autre situation de tantôt, ça, c'est sous réserve que les gens l'utilisent, le recours.
Rapidement, Philippe, si je comprends bien, il y aura des comités de francisation pour les PME de 25 employés et plus. As-tu une idée où on s'en va avec ça? Comment ça pourrait fonctionner?
Je crois, là, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je crois que ça existait déjà. Le gros changement, c'est que maintenant, ça va s'appliquer aux PME de 25 employés et plus. Alors, le gros changement ici, pour ces entreprises-là, c'est que c'est sûr que ça va peut-être engendrer certains frais, on s'entend, là, des frais bureaucratiques. Ces comités-là, normalement, ce qu'ils visent à faire, c'est qu'on doit établir des programmes de francisation, donc fournir des services en français, essayer de former nos employés à travailler en français. C'est un comité qui implique une partie des salariés, une partie des représentants de l'employeur. On se rencontre, il y a des modalités de rencontre. Ça s'applique également dans les milieux syndiqués. Alors, ça va être peut-être plus lourd pour certains employeurs. C'est un comité de plus, c'est des rapports de plus, des analyses de plus. Je ne sais pas à quel point il va y avoir du mordant par rapport à ça, mais ça s'applique à plus d'entreprises maintenant parce qu'on a diminué là, le nombre d'employés là, pour les entreprises qualifiées.
Bon, sur le principe, en terminant, Philippe, tu sais, la plupart des Québécois sont d'accord qu'il faut protéger la langue. En milieu de travail, il y a peut-être eu de l'abus ici et là, mais penses-tu que concrètement, ça va être efficace, cette nouvelle loi-là?
Du tout. En ce moment, je t'avouerais qu'en avocat en droit du travail, tu sais, sans même me prononcer sur le fond de tout ça, nous autres, c'est sûr que quand on a des nouveaux jouets, là, comme des nouveaux recours, là, on est excités un peu. Tu sais, on a hâte de voir comment ça va se matérialiser, ces recours-là. C'est comme si on a des nouveaux outils dans notre coffre à jouets, là, coffre à outils. Cela étant, dans les faits, c'est la même chose que pour les questions en entrevue. Tu sais, on a déjà fait une chronique là-dessus. Quelles questions je peux poser en entrevue? Quelles questions je peux pas poser? Très difficile à prouver quand la question n'est pas posée directement et que finalement, on n'embauche pas quelqu'un sur la base d'un motif discriminatoire, mais que c'est pas mis nulle part par écrit, puis personne ne le sait, personne ne peut contester. Ça va peut-être être un peu la même chose ici. C'est-à-dire que les employeurs vont peut-être juste pas s'afficher autant en exigeant le français, mais en entrevue, par exemple.
En exigeant l'anglais.
En exigeant l'anglais, ouais. Exactement, mais en entrevue, ils vont se dire, lui, il ne parlait pas anglais, fait qu'on ne le prendra pas. Il y a des situations où je ne sais pas si ça va être tant efficace. L'autre chose, il faut qu'un employé soit assez à l'aise de déposer une plainte. Et je ne sais pas si c'est encore ou si c'est tant imprimé dans les mentalités des gens de déposer des plaintes pour cette raison-là.
Il n'y a pas beaucoup de monde qui ose faire ça. J'ai l'impression que c'est
exact.
L'exception, oui.
Fait que moi, je dirais que le projet de loi, là, la game va changer si les gens utilisent les recours. Parce que si les gens utilisent les recours, ça va être comme admis qu'un employeur qui ne se conforme pas aux dispositions en vigueur peut faire l'objet d'un recours. Mais si les gens ne déposent pas de plainte, parce que notamment la population active qui travaille, qui est plus jeune que l'ancienne génération, se fiche un peu plus du français ou du moins ne le sent pas que le français est menacé puis comprend qu'on doit parler anglais de nos jours, bien si cette génération-là ne dépose pas de recours ou de plainte,
ça
ben, c'est certain
pas
que
grand
ça
chose.
Va être... Ben ouais. Non, du ouais. tout, du tout, du tout.
Ben, j'ai
du
hâte de
tout.
Voir les détails parce qu'on dit que le diable est dans les détails puis là, on a juste les grandes lignes, là, les objectifs. On s'en reparle sans faute bientôt, Philippe. Merci beaucoup pour l'entrevue.
Certainement. Bon week-end. Là.
À bientôt. Maître Philippe Coderre, spécialiste en droit du travail.